Vous écoutez
RMC.
Il est 8h, excellent réveil, très belle journée sur RMC et RMC Story.
RMC, Apolline Matin.
Le journal de Quentin Vinet. Bonjour Quentin.
Bonjour Apolline, bonjour à tous. C'est enfin aujourd'hui que les députés vont débattre de la suspension de la réforme des retraites à l'Assemblée nationale au tout dernier jour de l'examen du budget de la Sécurité sociale. On va y revenir. Emmanuel Macron va passer la journée à Toulouse. Pourquoi ? Pour rencontrer les agriculteurs et pour relancer aussi un format façon grand débat. Et cette information qu'on vous révèle ce matin sur RMC, la RATP va alléger la procédure en cas de bagages oubliés. Vous savez, ces bagages qu'embêtent tout le monde dans les transports en commun.
Il aura donc fallu attendre le dernier jour de l'examen du budget de la Sécurité sociale pour que soit abordée la suspension de la réforme des retraites.
Avec le débat aujourd'hui et le vote aussi, c'est certainement celui que tout le monde attend. On se souvient que le Premier ministre Sébastien Lecornu avait promis cette suspension pour échapper à la censure. Sébastien Krebs, chef du service politique à RMC en direct ce matin. D'abord, avant toute chose, rappelez-nous qui est concerné.
Alors vous êtes concerné si vous êtes né entre 1964 et 1968. Vous pourrez partir 3 mois plus tôt pour les premiers à 62 ans et 9 mois au lieu de 63 ans. En fait, l'application de la réforme est figée sur l'âge et sur la durée de cotisation jusqu'au 1er janvier 2028, le temps de laisser la présidentielle trancher. Les salariés en carrière longue et certains fonctionnaires comme les hospitaliers, les sapeurs-pompiers, les policiers qui partent déjà plus tôt en profiteront aussi. C'est l'ultime concession du gouvernement à la gauche qui pourtant ne votera pas comme un seul homme. Certains vont s'abstenir, les insoumis voteront contre, ils réclament l'abrogation pure et simple. En fait, cette suspension sera validée tout à l'heure par les voix du PS et du RN et à la faveur de l'abstention des macronistes qui, résignés, vont laisser détricoter leur réforme au nom du compromis.
Alors Sébastien, le gouvernement insiste depuis le début sur la question du financement de cette suspension de la réforme des retraites. Après là, tous les débats, est-ce que le compte est bon ?
Alors à ce stade, non. Et la concession sur les carrières longues pourrait même multiplier le coût par 3 l'année prochaine. On parle de 300 millions d'euros en 2026 et ça pourrait atteindre 2 milliards en 2027. Le gouvernement avait proposé 2 mesures. Une contribution demandée aux mutuelles et le gel des pensions de retraite. La première a déjà été retoquée par les députés. La deuxième a toutes les chances de subir le même sort. Elle sera soumise au vote ce soir. Et une large partie de l'hémicycle refuse de toucher aux retraités. Voilà ce qui fait dire au patron du MEDEF que tout cela est une hérésie. Argument entendu par les sénateurs qui ont prévu de rétablir la réforme. Tout va donc se jouer lorsque le texte reviendra à l'Assemblée au mois de décembre. Vous voyez, le chemin est encore long.
On voit ça effectivement. Sébastien Krebs, chef du service politique à RMC. Pendant ce temps, Emmanuel Macron va donc passer la journée à Toulouse. Elle était prévue de longue date, cette journée, pour un échange façon grand débat, en quelque sorte, avec des lecteurs du journal La Dépêche du Midi sur la thématique des réseaux sociaux et des algorithmes qui mettent à l'épreuve la démocratie. C'est un sujet présidentiel, estime Emmanuel Macron. Mais en plus de ça, dans la foulée, c'est RMC qui vous l'a révélé, Emmanuel Macron va rencontrer les syndicats d'agriculteurs. Ils sont en colère depuis qu'ils ont entendu le président dire, c'était le week-end dernier, qu'il était finalement plutôt positif à l'idée d'accepter l'accord de libre-échange du Mercosur entre les pays européens et sud-américains. Jean-Wilfried Forquès, vous êtes en direct de Toulouse ce matin pour RMC. Les agriculteurs profitent donc de la visite du président pour se mobiliser. Ils ont des choses à lui dire.
Oui, c'est ça. Ils veulent une clarification et le mieux, c'est d'en parler avec Jérôme Bail qui fera partie de cette délégation reçue tout à l'heure par le chef de l'État. Vous attendez quoi, Jérôme Bail, du chef de l'État tout à l'heure?
Eh bien, on attend tout simplement qu'il nous des explications par rapport à ses propos qu'il a eu au Brésil la semaine dernière. Donc nous, un double discours, on n'en veut pas. Devant nous, il nous garantit qu'il est contre l'accord du Mercosur. Et la semaine dernière, quand il est, on va dire, à l'extérieur, il dit que lui, il est pour. Donc on veut des explications sur ça et on veut des explications de savoir qu'est-ce qu'il compte faire dans l'agriculture française et encore plus occitane, parce que on croule encore sous les normes et on nous en rajoute encore à chaque fois, quoi.
Voilà, les agriculteurs qui se mobilisent ici, Quentin, depuis quelques minutes, les tracteurs qui sont en train d'arriver à proximité de ce rond-point pour cette mobilisation qui devrait durer toute la journée. S'ils n'ont pas de réponse, ils menacent de bloquer Toulouse ce soir.
On les entend, les tracteurs derrière vous, Jean-Wilfried Forquès, en direct de Toulouse ce matin pour RMC. À Tourcoing, dans le Nord, et c'était l'information de la soirée, un jeune de 16 ans est mort hier à scooter. Il refusait de s'arrêter à un contrôle de la police municipale après un délit routier. L'indignation désormais du maire de Verdun dans la Meuse, la ville dont le nom est évidemment lié à la Première Guerre mondiale. Romain Houck, vous allez tout nous expliquer pour RMC. Une messe d'hommage à Pétain était prévue samedi dans une église et le maire donc a pris un arrêté pour l'interdire.
Je tiens à vous faire part de mon dégoût et de ma très vive colère. Voilà les mots du maire de Verdun, Samuel Hazard, dans un communiqué qu'il publie sur ses réseaux sociaux, annonçant donc avoir pris un arrêté interdisant cette cérémonie. Un hommage organisé par l'association pour défendre le maréchal Pétain. C'est son nom, l'ADMP, qui explique de son côté avoir obtenu l'autorisation écrite du vicaire apostolique, en clair le chef religieux du territoire, pour l'organisation de cette messe. Messe qui, selon le maire de la ville, va générer à l'évidence des troubles à l'ordre public. Jamais je n'accepterai qu'une messe soit célébrée à Verdun en hommage à Pétain, poursuit-il. Philippe Pétain, frappé d'indignité nationale en 1945, a été déchu, entre autres, de son grade militaire après avoir été chef du régime de Vichy, qui collabora avec l'Allemagne nazie. L'association qui a fait part à la mairie de son intention de saisir le tribunal administratif pour contester l'arrêté d'interdiction.
Si on avait pu éviter ça, ça aurait été bien. Voilà ce que dit Didier Deschamps à propos du match de l'équipe de France de football demain soir contre l'Ukraine. Un 13 novembre, 10 ans jour pour jour après les attentats de Paris et de Saint-Denis aux abords du Stade de France. Et alors 10 ans après, malgré la menace terroriste qui est toujours très élevée, à Paris et en banlieue parisienne aussi, la RATP assouplit sa politique en matière de bagages oubliés dans les transports. C'est la principale cause de perturbations sur le réseau. Il y en a en moyenne 7 par jour, des bagages oubliés, avec à chaque fois des retards. Bref, ça embête tout le monde et c'est une info RMC que vous nous révélez, Victor Joannin. La procédure à la RATP va changer à partir du 1er janvier.
Oui, aujourd'hui, en cas de bagages abandonnés, la rame est évacuée, elle reste à quai et le trafic est interrompu le temps que les démineurs interviennent. À partir du 1er janvier, ce sera différent. Sauf si le bagage est visiblement dangereux, c'est-à-dire qu'il contient une bouteille de gaz, par exemple, la rame pourra être déplacée jusqu'à une voie de garage avant l'intervention des démineurs pour libérer le passage pour les trains suivants. Et si le bagage est découvert sur un quai, les métros ou RER pourront continuer à passer par la station sans s'arrêter, bien sûr. Les perturbations créées par les bagages oubliés sont dangereuses car les voyageurs se précipitent dans des rames saturées, se justifie la RATP dans sa note. Aberration sécuritaire, répond le syndicat Force Ouvrière, qui rappelle que la France est toujours placée en urgence attentat, c'est-à-dire le niveau maximal du plan Vigipirate.
Bon, et alors c'est la reprise du boulot hein, pour les nombreux Français qui ont fait le pont lundi, mardi et qui auraient bien aimé surtout que ça continue. Géraldine Demory, on va sûrement battre aujourd'hui des records de température pour un mois de novembre.
28 degrés attendus cet après-midi à Osgore. C'est 12 degrés au-dessus des températures habituelles à cette saison. Ce qui se passe, c'est qu'on a en ce moment une dépression qui est sur l'Atlantique. Elle s'appelle Claudia. Et alors, à cause de sa position, on a un flux de sud sur la France qui propulse une masse d'air extrêmement douce pour la saison. Demain, on devrait encore atteindre 27 degrés à Oloron-Sainte-Marie. Mais la chaleur va aussi gagner les régions plus au nord, avec 22 degrés prévus à Bourges, 19 à Paris. Effectivement, ce serait une chaleur jamais vue aussi tard dans l'année, l'après-midi comme le matin hein, d'ailleurs. De quoi faire penser à un été indien? C'est même si en France, en fait, le terme exact, c'est l'été de la Saint-Martin. En fait, c'est un repère pour les agriculteurs. Ça signifie que jusqu'à la Saint-Martin, on peut avoir encore des pics de douceur, donc autour du 11 novembre.
Voilà, donc on ne parle pas d'été indien, mais d'été de la Saint-Martin.
Été de la Saint-Martin. Il est 8h08, c'était le journal de Quentin Vinet. On va partir au 32-16. Damien qui nous appelle de Nice. Bonjour Damien.
Bonjour Apolline.
Damien, vous êtes syndic d'immeubles. Vous vouliez réagir sur la question des retraites, le fait que ce soit suspendu, la réforme aujourd'hui. Vous en pensez quoi, vous ?
Oui, tout à fait. Alors, pour être très honnête avec vous, moi, je trouve que tout le monde, enfin, comme je disais sur le WhatsApp, tout le monde se braque sur l'âge de départ à la retraite. À mon avis, la vraie question, c'est de se concentrer pour que les jeunes travaillent le plus tôt possible et qu'on cotise le plus tôt possible. Mmh. Pour vous donner mon cas personnel, moi j'ai été étudiant, j'ai fait 5 ans de droit, j'ai cumulé les jobs étudiants, ouais. Et pas longtemps en regardant mes droits à la retraite, j'ai vu que j'étais éligible au dispositif des carrières longues.
Mmh. Parce que vous avez commencé à bosser parallèlement à vos études.
Exactement. Donc je pense que au lieu de garder l'âge de la retraite comme un totem, certains 60, 62, 65, 67, faut vraiment se focaliser sur le travail des jeunes et la possibilité de cotiser le plus tôt possible.
Vous avez peut-être entendu d'ailleurs, Damien, hier, mon invité, l'économiste Jean-Hervé Lorenzi, qui disait au fond, la question n'est même plus, en effet, l'âge ou pas l'âge, c'est de réussir à faire travailler plus tôt et plus tard. C'est-à-dire, il dit, en fait, on travaille au milieu de la vie, on travaille très bien, on est très productif. Le problème, c'est l'entrée trop tardivement sur le marché du travail. Et surtout, on en part trop tôt, le travail des seniors. Merci beaucoup, Damien. N'hésitez pas à nous rappeler, comme Damien a témoigné au 32-16, il est 8h09.
RMC jusqu'à 9h.
Apolline Matin.
Et dans la demi-heure qui vient, l'économie, ce sera avec Emmanuel Lechypre. Les Français hésitent à faire des travaux de rénovation énergétique et on les comprend parce qu'ils trouvent que c'est non seulement trop cher mais aussi trop compliqué. Il y aura aussi l'invité du face-à-face, c'est à 8h30, la secrétaire générale de la CGT, Sophie Binet. Est-ce qu'elle est favorable à cette suspension de la réforme des retraites? LFI va voter contre, par exemple. Ça paraît assez paradoxal, je lui pose la question donc à 8h30. Et puis juste après, il y aura face à Canteloup, vous le savez, Nicolas Canteloup qu'on retrouve tous les jours à 8h50 sur RMC. 8h10, à tout de suite.
RMC, jusqu'à 9h. Apolline Matin.
Apolline de Malherbe.
Il est 8h13 et vous êtes bien sur RMC. Et RMC Story, c'est l'heure de parler économie et logement.
RMC, Apolline Matin.
Le chiffre d'affaires.
Emmanuel Lechypre est avec nous. Les Français jettent l'éponge en matière de rénovation de leur logement.
Eh bien oui, Apolline, plus de 4 propriétaires sur 10 qui aimeraient démarrer des travaux de rénovation énergétique dans leur logement. Principalement, évidemment, pour les rendre plus confortables et plus économes en énergie, pas tellement pour des raisons environnementales, eh bien, ces propriétaires renoncent finalement à leur projet, donc 4 sur 10. Et dans 7 cas sur 10, ces propriétaires renoncent à ces travaux pour des raisons financières. Et ce qui est intéressant, c'est que c'est de loin la proportion la plus élevée de toute l'Europe. Il n'y a pas un pays où on renonce autant à des travaux de rénovation qu'en France pour des raisons financières. C'est ce que nous dit l'Observatoire de l'Habitat qui vient de publier cet LM1.
Mais alors, qu'est-ce qu'on a de pire que les autres? Qu'est-ce qui bloque chez nous?
Alors, c'est pas tel... Alors, le coût des travaux, oui, mais il n'est pas fondamentalement plus cher que chez nos voisins à niveau de vie comparable. Non, au-delà du prix, c'est le flou sur le coût réel des travaux à prévoir qui est jugé paralysant. Et là, bien plus qu'à l'étranger, et notamment parce que le maquis des aides est bien plus dense qu'ailleurs. Un Français sur 10 seulement sait comment solliciter les dispositifs auxquels il a droit, et ça se comprend puisque au-delà des classiques MaPrimeRénov', il y a plusieurs dizaines de dispositifs d'aide qui existent. Et en plus, ces dispositifs nécessitent souvent d'avancer les fonds, faute de mécanismes plus innovants qui existent par ailleurs en Europe. C'est possible d'avoir des avances, c'est possible que le paiement se fasse directement aux artisans. En France, c'est encore compliqué.
Bah
en
oui.
plus,
ça c'est étonnant. Tout le temps. C'est étonnant. Vous nous dites que finalement, c'est peut-être ils savent mieux faire ailleurs.
Là-dessus, ils savent mieux faire ailleurs. Ils savent mieux
c'est
faire
sûr.
Ailleurs. Plus alors, simple, on sait souvent mieux faire ailleurs. Oui.
C'est ça. D'autant plus que ceux qui ont fait effectivement leurs travaux, la plupart du temps, en sont satisfaits.
Ben, c'est ça qui est paradoxal. Les 3/4 des familles jugent que la baisse de leur facture énergétique après travaux correspond à leurs attentes, voire les dépasse, entre 10 et 30% de baisse. Alors, les travaux les plus rentables, c'est le changement de chaudière ou l'isolation des combles. Ça, c'est rentabilisé en 5 à 9 ans, nous dit l'ADEME. Est-ce que vous savez quel est l'investissement le plus long à rentabiliser? Je suis sûr que vous allez être surpris. Eh ben oui. Eh ben oui, Pascal, les fenêtres à double vitrage, ça paraît l'investissement le plus raisonnable, le plus rationnel, et pourtant c'est celui qui est le plus long à rentabiliser.
Merci Emmanuel, Emmanuel Lechypre.
I'm free. Votre rendez-vous sur RMC avec Banque Populaire, engagée aux côtés de ceux qui entreprennent. Banque Populaire, la réussite est en vous. RMC, Apolline Matin.
C'est tous les jours de manche.
Il est 8h16 et c'est Arnaud Demange qui rentre dans ce studio.
Bonjour à tous les Bonjour. Amis. Alors tiens, on va parler maternité puisque Apolline, Pascal, oui. Géraldine, Mathieu, vous êtes toutes mères de famille.
Mm-hmm. Bah, surtout Mathieu.
Mère cool, moi.
Mère cool.
Il a son
toute maman.
Mais
oui, toute notre enfance, parce qu'on est des jeunes vieux maintenant. Ouais. Alors, des vieux jeunes. À ce titre, vous inquiétez donc de l'avenir de vos enfants. Eh bien, j'ai une grande nouvelle. Gabriel Attal propose 1 000 euros par enfant. J'ai appris ça hier.
Oui.
Je faisais mes courses au BHV et j'entendais les gens qui discutaient, qui disaient 1 000 euros par enfant. Ben c'est cher, alors que pour 180 euros, on a une poupée chine toute neuve. T'as vu, Mimil, qu'ils en vendaient au 7e étage, maintenant, à côté de la poupée sexuelle en forme de canard. Tu l'as testée, celle en forme de canard, ça fait...
Wow.
Quand tu l'utilises, on dirait un vrai. Vous avez vu, Apolline, 50 conservatoires pour faire ça. J'ai fait de hautes études. Mes parents sont ravis. Alors donc, il y a une petite confusion, messieurs. C'est pas 1 000 euros par enfant dans ce sens-là, c'est 1 000 euros que l'État verse.
Si vous faites un enfant, vous gagnez 1000 euros. Vous êtes donc payé pour faire l'amour. Et ça a changé parce que d'habitude, c'est moi qui paye 1000 euros, me disait Patrick Sébastien, toujours pertinent. Donc, c'est 1000 euros que l'État dépose pour lui sur un plan d'épargne retraite. Et vous pouvez verser des sous dessus. C'est dommage pour vous, Apo, c'est pas rétroactif.
Oui, c'est ça, j'espère.
C'est con, hein, 4000 balles, ça fait toujours du bien. Ouais. Non, non, là, c'est 1000 euros par nouveau-né. Ouais. Comme ça, il aura un capital de... Wow, 1200 euros à son départ à la retraite. À 75 ans, ce sera la durée légale en 2099. Il n'aura pas plus, hein, parce que tous les Français sont fauchés. On va rien mettre dessus. Et avec ces 1200 euros, eh bien, compte tenu de l'inflation, il pourra s'acheter un menu Big Tasty au McDonald's. Bon, en vrai, c'est alléchant, ces 1000 euros. Il n'est pas con, Attal. Avec ça, il veut viser la présidentielle de 2043. Et chers électeurs, n'oubliez pas, hein, c'est moi qui vous ai donné 1000 euros à la naissance. Hein. C'est moi. Alors sachez que la proposition fait des petits. Le monsieur économie du RN, Jean-Philippe Tanguy, n'est pas en reste, puisque nous, on propose pour chaque enfant immigré qui repart au pays, 1000 euros s'il repart avec ses parents, ses cousins, sa famille, sa poussière, ses tapis et tout le bordel. Et hop, la Renault 12, on rentre au pays, lelela. Et après, t'emmènes tous tes amis, lelela. Tu finiras tes jours là-bas. Waouh, waouh, waouh.
Nicolas Sarkozy a passé ça.
C'est le crossover le plus improbable.
Nicolas Sarkozy a passé sa première journée hors de prison hier.
Et oui, le plus dur commence pour lui maintenant. La réinsertion, il faut se réhabituer à une société qui a changé. Non mais ses repères vont être tout chamboulés, il va être là. Carlita, tu sais quoi ? Je voulais t'acheter des beaux vêtements au BHV et j'ai entendu des bruits de canards dans les cabines d'essayage. Oh mon chéri, les choses ont tellement changé depuis 20 jours. Je te jure, ça faisait...
Oh non.
Je le fais bien. Quelqu'un disait Saturnin, mon amour. Ces deux gardes du corps ont également été libérés, mais eux sans contrôle judiciaire. Heureusement, vous imaginez, bah les gars, vous devez pointer au commissariat deux fois par semaine. Mais c'est là qu'on bosse, ça a aucun sens. Nicolas Sarkozy a interdiction d'entrer en contact avec Gérald Darmanin. Alors là, Emmanuel Macron, il doit être jaloux. Je suis sûr qu'il a appelé les juges en disant « Eh, dites donc, je peux avoir ça moi aussi. Ne pas être en contact avec mes ministres tout nuls là, tous. » Tous ceux qui sont passés. Au moins Bruno Le Maire. Au moins.
Oui, parce que président, je vous avais écrit une lettre pour vous prévenir de la dette.
Ah, il est encore là. Dégage. Il m'appelle 5 fois par jour, celui-là. Il est pire qu'un numéro en 0162, le gars.
Aujourd'hui, Emmanuel Macron répondra aux questions de 250 lecteurs de la Dépêche du Midi.
Eh oui. Un homme impopulaire qui répond aux questions de 250 personnes qui le détestent. On dirait PPDA devant ses accusatrices. Alors, à quoi ça va ressembler, cet échange? Alors, président, vous le savez, à Toulouse, il y a un débat. Pour vous, on dit chocolatine ou pain au chocolat? C'est une vraie question, ça? On peut avoir quelqu'un d'autre?
Ouais, moi. Alors, nous, on est embêtés avec le Mercosur, parce que vous aviez dit aux agriculteurs que vous signerez pas, et t'as signé, Pichoun.
Oui. Alors d'abord, la question sur la chocolatine, parce que le sujet est important. Derrière la déconne, je sens qu'il y a un vrai sujet.
Non, le Mercosur. Nous, on peut pas faire de concurrence aux volailles de l'étranger. Hein. Tiens, nous, ici, on fait du foie gras. Eh bien, hier, je suis allé au BHV Toulouse, place du Capitole, et j'entends... Et j'ouvre le rideau, et le gars, il gave un canard en plastique chinois. C'est de la concurrence, c'est déloyal.
Allez, courage, Emmanuel. Je sens que les questions vont être très pointues, très compliquées. À demain. Gros bisous.
À demain. Merci, Arnaud. Arnaud Demange, que l'on retrouve donc à tout moment en podcast et sur RMC. Et RMC.fr. Mais qu'est-ce que c'est que cette alerte? Adrien Aiguin est entré dans ce studio.
Salut,
qu'est-ce que tu fais là?
Salut,
c'est le Super Moscato.
Ça va, je m'incruste, désolé. Je suis en mission au nom du Super Moscato Show, au nom de RMC, pour porter bonheur aux auditeurs. Vous vous souvenez, il y a quelques mois, Kevin avait gagné 100 000 euros. 100 000 euros sur RMC, ça s'était passé dans le Moscato Show. Du coup, comment on porte bonheur? Bah, toute la journée, c'est le Moscato Show qui va tenter de faire gagner les auditrices et les auditeurs. Donc, c'est maintenant, vous l'avez déjà fait chez Pascal et Mathieu, entre 5h et 7h dans le morning RMC. Vous arrêtez tout ce que vous êtes en train de faire. Si vous amenez les enfants à la voiture, vous vous garez pour envoyer un SMS complètement. Vous pouvez être en retard à l'école, c'est pas grave, une fois dans l'année, pour 120 000 euros.
Pour 120 000 euros, ça l'avoue.
Donc, vous arrêtez tout. Donc, c'est le moment de jouer pour remporter donc 120 000 euros. C'est exceptionnel, c'est jamais vu sur RMC. C'est 100 000 euros pour vous, net d'impôts, versés directement sur votre compte en banque, vous imaginez. Et en plus, 20 000 euros à la personne de votre choix, hein, de vos proches. Il y a une règle, c'est pas compliqué, Si on l'appelle, ce proche, il suffit qu'il décroche et qu'il dise « J'écoute RMC ». Donc là, vous arrêtez tous et maintenant, ça peut changer votre vie. Vous envoyez RMC par SMS.
Au et vous 7... dites à vos copains d'écouter RMC
en permanence toute la journée. Vous envoyez maintenant RMC par SMS au 732-16. C'est pas compliqué, c'est un SMS envoyé. RMC par SMS au 732-16. Et surtout, vous avez 10 minutes pour le faire. Il est 8h22 à 8h32, c'est terminé. Donc 10 minutes pour gagner. Nous, on sait comment ça se passe. On a fait gagner ça dans le Moscato Show.
C'était 100 000 euros. Ils ont fait gagner les 120 000 euros.
Il vous reste presque 9 minutes maintenant. Là. C'est la course contre la montre.
C'est parti. 120 000 euros. Merci, Adrien. Tu reviendras
Pas tous les jours, mais je vais revenir. Faites un métier compliqué.
120 000 euros sur RMC au 732-16.
75 centimes par SMS, 4 SMS maxi.
Et dans un instant, c'est la secrétaire générale de la CGT, Sophie Binet, qui sera mon invitée. Les députés vont sans doute suspendre la réforme des retraites contre laquelle elle s'est tant battue. Ça va se passer dans l'hémicycle cet après-midi. Sophie Binet, mon invitée sur RMC et BFM TV dans le face-à-face. À tout de suite.
RMC jusqu'à 9h.
Apolline Matin. Face-à-face.
Apolline de Malherbe.
Il est 8h29 et vous êtes bien sur RMC et BFM TV. Bonjour Sophie Binet.
Bonjour.
Vous êtes secrétaire générale de la CGT. Merci de répondre à mes questions ce matin. C'est le jour J. Tout à l'heure, 15h, les députés vont examiner la suspension de la réforme des retraites. Cette réforme des retraites contre laquelle la CGT s'est tant battue. Ça y est, cet après-midi, ça devrait sauter. Est-ce que vous vous en réjouissez ?
Le décalage de la réforme des retraites, c'est une brèche dans un totem du macronisme. C'est important, ça a été arraché grâce à la mobilisation des salariés. Le problème, c'est que les 64 ans restent dans la loi, mais leur application est seulement décalée d'une génération. Donc nous appelons les députés à demander au gouvernement à tenir vraiment parole et à mettre en place une vraie suspension. Une vraie suspension de la réforme, c'est un blocage de la réforme pour toutes les générations, pour qu'elle s'arrête pour tout le monde, pas seulement pour quelques générations.
Une vraie suspension, mais ça commence quand même par la suspension telle qu'elle est proposée. Vous appelez les députés cet après-midi à voter cet amendement de suspension.
Nous appelons les députés à demander au gouvernement à tenir parole, parce que aujourd'hui,
j'ai pas tout compris.
Eh ben en fait, le décalage. Aujourd'hui, c'est un décalage de la réforme des retraites qui est proposée au vote. C'est-à-dire que les 64 ans, au lieu de s'appliquer à la génération 1968, vont s'appliquer à la génération née en 1969. Donc, ça permet pour 5 générations de partir 3 mois plus tôt, mais les 64 ans restent dans la loi. Et donc, ce que nous demandons aux députés, c'est d'exiger que le gouvernement tienne parole et qu'il retire les 64 ans de la loi pour vraiment suspendre la réforme.
Alors moi, je suis assez basique. Cet après-midi, ils doivent voter sur cet amendement-là. Est-ce que vous leur demandez de voter oui ?
Cet après-midi, nous leur demandons de modifier la copie. Ils peuvent modifier la copie. Il y aura des amendements cet après-midi.
Si c'est l'amendement tel qu'il est rédigé par le gouvernement, auquel s'ajoute d'ailleurs, et c'est officiel depuis quelques instants, un amendement supplémentaire pour élargir cette suspension, y compris aux carrières longues. Ma question, elle est très basique, Sophie Binet. Il y a certains qui ont déjà dit qu'ils voteraient pour cette suspension, le Parti Socialiste, le Rassemblement National. Il y en a d'autres qui ont demandé à voter contre, LFI par exemple, qui certes est contre cette réforme des retraites, mais qui estime que cette suspension, ce décalage, comme vous dites, ne suffit pas. Quelle est la position de la CGT ?
C'est très important de réintégrer les salariés en carrière longue, parce que c'était 20% des salariés qui étaient exclus du décalage, mais nous demandons aux députés de ne pas valider les 64 ans qui restent dans la loi. C'est donc que la copie doit encore évoluer. La copie peut encore évoluer en séance. Il faut que les députés fassent évoluer la copie pour ne pas valider les 64 ans.
Si cette copie n'évolue pas et que ce n'est que la suspension et donc qu'un décalage de 3 mois, est-ce que vous prenez ?
Et pour les salariés concernés, c'est une avancée.
Donc vous leur demandez quand même de voter oui.
3 mois plus tôt. Mais le problème, c'est que dans le même article, il y a les 64 ans. C'est ça le souci, en fait.
J'ai du mal à comprendre. C'est-à-dire, en fait, vous vous êtes battu contre cette réforme des retraites. Certes, il ne s'agit pas d'une abrogation de cette réforme des retraites, mais c'est déjà pour, en effet, quelques générations, 3 mois de gagné. Vous devriez, au minimum, vous réjouir déjà de cette première
victoire. C'est une avancée pour les 5 générations concernées qui pourront partir 3 mois plus tôt. C'est une brèche dans ce totem du macronisme que constitue la réforme des retraites. Donc ça, c'est important. Mais il faut aller plus loin. Et là, en séance faire disparaître les 64 ans de la copie. Voilà ce que nous demandons au gouvernement. Le Premier ministre s'est engagé à suspendre la réforme des retraites. Il faut qu'il la suspende pour de vrai. C'est le Président de la République qui l'a dit lui-même. Aujourd'hui, c'est un décalage, pas une suspension. Le Premier ministre doit tenir parole et suspendre la réforme des retraites et donc s'en arrêter à 62 ans et 9 mois pour toutes les générations, pas seulement la génération 1964.
Je vous repose la question. Si dans cet amendement, il y a toujours le chiffre de 64 ans, ça veut dire que vous leur demandez de voter contre, comme LFI.
Nous ne donnons pas de consigne de vote aux députés.
La CFDT n'a pas cette pudeur. La CFDT, par la voix de Marie-Lise Léon, a demandé aux députés de donner ce premier coup d'arrêt à la réforme des retraites en votant la suspension mercredi à l'Assemblée nationale.
Oui, nous ne donnons pas de consigne de vote aux députés. Ce que nous leur disons, c'est qu'il faut continuer le combat pour l'abrogation de la réforme des retraites. Nous nous sommes mobilisés pendant des années à des millions pour obtenir l'abrogation des 64 ans. Et donc, il faut continuer avec ce premier coup de canif de décalage de la réforme des retraites, mais sans valider les 64 ans et donc sans accepter que les 64 ans restent dans la loi.
Mais il y a un côté jusqu'au boutiste, c'est-à-dire que vous ne pouvez pas quand même vous dire « c'est une première victoire, on y va et on fera la suite ». Plus tard, et c'est toujours mieux que rien.
C'est une étape pour les générations concernées. Ça veut dire qu'il y a 5 générations qui vont pouvoir partir 3 mois plus tôt. Donc ça, c'est important. Mais ce que nous disons, c'est qu'il faut aller jusqu'au bout et abroger les 64 ans qui, aujourd'hui, posent problème. Voilà ce que nous disons.
Donc, vous espérez au minimum que ça change et que ça ne reste pas rédigé en l'état. Je précisais effectivement que le fait de l'élargir aux carrières longues, c'est un amendement de dernière minute rajouté par le gouvernement pour aller encore plus loin dans cette suspension.
Bah, sinon, c'était vraiment hypocrite. C'était 20% des salariés qui n'y avaient pas accès. C'était quand même grossier. Donc, c'est la moindre des choses.
Ça triple le coût en 2026.
Oui, mais le coût reste quand même faible puisqu'on parle de 400 millions d'euros par rapport aux masses du budget 2026, c'est tout à fait assumable.
Par ailleurs, on n'a toujours pas le début d'une autre manière de financer ce renoncement pour le gouvernement.
Nous avons fait des propositions de longue date, notamment le fait de soumettre à cotisation l'intéressement et la participation. Ça ferait rentrer plus de 4 milliards d'euros dans les caisses. Et ça, le gouvernement, malheureusement, à ce stade, refuse de l'examiner.
Patrick Martin, le patron du MEDEF, estime que le report de la réforme des retraites est une hérésie. Il le dit chez nos confrères du Figaro.
Ce qui est une hérésie, c'est cette réforme des retraites, puisque on le voit, c'est une catastrophe pour les seniors que les employeurs licencient par dizaines de milliers actuellement dans les plans de licenciement qui se succèdent. Les premiers à être éjectés, c'est les seniors les plus de 55 ans. Et le patronat n'a toujours pas mis en place de dispositif pour garder les seniors en emploi. Donc, faut qu'il arrête de se moquer du monde.
Alors, il a fait des comptes, Patrick Martin. Il estime, je le cite, que si le texte passait en l'état, il y aurait 53 milliards de plus de prélèvements sur les entreprises.
Oui, alors faut qu'il nous donne la marque de sa calculette et qu'il renouvelle son fournisseur, parce que là, visiblement, il y a un problème sur les chiffres. D'abord, dans les mesures qui ont été votées, il y a des mesures, par exemple les 26 milliards de taxation des multinationales, que moi je trouve très positives. Malheureusement, tout le monde sait qu'en l'état, ça ne pourra pas s'appliquer. Et puis ensuite, sur le reste, s'il y a une augmentation de la fiscalité, c'est pour monsieur et madame tout le monde, pas pour les entreprises. Ce que Patrick Martin oublie de préciser, c'est que alors que ce budget est d'une violence inédite pour le monde du travail, le patronat a réussi le tour de force à avoir de nouveaux cadeaux, puisqu'ils ont 1 milliard de baisse d'impôts de la CVAE, l'impôt de production qui pèse sur les entreprises. Et puis, ce que le MEDEF oublie de rappeler, c'est que ce sont eux qui sont responsables du déficit aujourd'hui. Il y a eu, depuis 2017, les entreprises payent 40 milliards d'impôts en moins chaque année, notamment d'impôts sur les sociétés qui ont considérablement baissé.
Ah bah ça, c'est un chiffre officiel de tous les économistes.
Il y a eu 40 milliards de baisse d'impôts sur les entreprises depuis 2017 chaque année. Donc c'est totalement indécent que le patronat aujourd'hui nous explique qu'il y a un matraquage fiscal. C'est faux.
Il estime, Patrick Martin, que ça met en danger l'économie française, l'investissement, l'emploi. Il dit notamment à propos de la taxe sur la fortune improductive que c'est une aberration, je cite, « l'argent n'est pas sous des matelas, il est dans l'économie française, il finance la dette française ». Qu'est-ce que vous répondez ?
Ce que nous répondons, c'est que les inégalités explosent en France, notamment les inégalités entre celles et ceux qui travaillent et celles et ceux qui vivent de leur patrimoine, de leurs actions, de leur patrimoine immobilier, de leurs dividendes. Et donc, l'enjeu, c'est d'avoir une vraie justice fiscale. Aujourd'hui, il y a un scandale, c'est que les petites entreprises payent beaucoup plus d'impôts que les grosses. C'est ça qu'il faut rétablir, la justice fiscale entre les ménages et entre les plus grandes entreprises et les plus petites.
Vous vous parlez de temps en temps ? Je veux dire, avec Patrick Martin, vous...
Ces derniers temps, plus beaucoup. Plus beaucoup.
Vous pensez que il y a même plus de dialogue possible?
Mais en fait, le problème, c'est que le patronat refuse toute avancée pour les travailleurs et les travailleuses et refuse tout compromis. C'est ce qu'il a montré l'année dernière dans la séquence sur les retraites. Et donc, on a un patronat qui ne cherche que des mesures pour enrichir les plus grandes entreprises et les plus riches.
Sophie Binet, il y a cette conférence travail et retraite qui a été lancée par le gouvernement. La CGT n'y va pas, le MEDEF n'y va pas. Vous n'y étiez pas le 4 novembre dernier.
Oui, on n'y était pas puisque le gouvernement avait choisi comme première date de lancement le jour d'une grande réunion d'instance de la CGT. On leur avait dit qu'on n'était pas disponible, donc c'était quand même...
Donc c'était juste une question d'agenda.
C'était une question d'agenda.
Vous irez pour la suite.
Essentiellement, pour la suite, nous souhaitons avoir des réponses sur nos demandes, sur le contenu. On souhaite pouvoir parler des conditions de travail, de l'explosion des morts et des accidents du travail, et donc du bilan des ordonnances travail qui ont été mises en place par Emmanuel Macron. On souhaite parler de la question des salaires. C'est le premier sujet de préoccupation des travailleurs et des travailleuses. On souhaite parler du financement de nos systèmes de retraite, comment financer l'abrogation de la réforme des retraites, le retour aux 62 ans et même aux 60 ans. Et on souhaite aussi parler de la pénibilité pour avoir de vrais départs anticipés pour pénibilité, puisque en France, il n'y a quasiment aucun salarié qui peut partir pour pénibilité alors qu'il y a 40% des métiers
vous
pénibles.
Vous demandez à pouvoir parler de ça. Si on vous dit oui, ça sera dans l'agenda de cette conférence, alors vous irez. Mais à ce stade, vous ne dites pas on y va quoi qu'il arrive.
Bah évidemment, on y va s'il y a des enjeux pour les salariés, les travailleuses et les travailleurs. Et la CGT va toujours dans tous les endroits où on peut gagner des avancées pour les travailleuses et les travailleurs. On y va pour améliorer leur quotidien. Donc ça va être ça notre état d'esprit, bien sûr.
Vous aviez dit il faudra de nouvelles mobilisations. Ce sera indispensable. Est-ce que vous l'estimez toujours ?
Oui, tout à fait. Parce que ce que montre le débat budgétaire, c'est que à cause notamment de l'extrême droite qui s'est opposée à toute mesure de justice fiscale, jusque-là, la copie reste catastrophique. Il y a eu des bougies arrachées grâce aux mobilisations, notamment le gouvernement a été forcé de dire que il allait renoncer à l'année blanche, c'est-à-dire au gel des pensions, au gel des prestations sociales. D'abord, ces bougies, pour l'instant, ne sont pas concrets, donc on veut qu'ils se traduisent concrètement. Et puis ensuite, le compte n'y est pas du tout. Le budget de l'hôpital, par exemple, c'est une catastrophe. Il n'y a jamais eu un budget pour les hôpitaux aussi catastrophique que celui qui est proposé aujourd'hui. Depuis le Covid, chaque année, on ferme des milliers de lits. Chaque année, chacune et chacun d'entre nous se rend compte à quel point la situation des hôpitaux se dégrade. Et là, ce budget, s'il était adopté, ça serait une catastrophe supplémentaire pour l'hôpital.
Donc, vous appelez à la mobilisation. Avez-vous déjà une date ?
Oui, nous appelons à faire grève et manifester le 2 décembre prochain. Le 2 décembre, on sera dans la séquence décisive pour la discussion sur ce budget. Il faut absolument que les travailleuses et les travailleurs soient de la partie pour que le débat budgétaire soit sous la pression de la mobilisation, pour qu'on puisse gagner l'enterrement de toutes les catastrophes de ce budget. Par exemple, l'enterrement des franchises médicales qui feraient exploser le reste à charge en matière de santé. Il faut aussi se mobiliser pour défendre la situation de notre école. À ce stade, dans le projet de budget, c'est 4500 suppressions de postes dans l'éducation nationale qui sont prévues. Donc il ne faut pas
donc
que ça
passe.
Donc
vous appelez la France entière à se mobiliser, quels que soient les secteurs, le mardi 2 décembre, à descendre dans la rue ?
Tout à fait, on donne rendez-vous à tous les travailleurs et les travailleuses le 2 décembre dans la rue pour forcer le gouvernement à revoir sa copie, grève et manifestation. Je vais prendre encore un exemple de scandale de ce projet de budget. À ce stade, les parents d'enfants de plus de 14 ans auraient une forte baisse de leurs allocations familiales, ce qui conduirait potentiellement à une perte de quasiment 1000 euros par an pour les parents qui ont des enfants de plus de 14 ans. Donc Il y a une série d'horreurs dans ce budget qui doivent être retirées. Elles ne le seront que si nous nous mobilisons très largement, comme l'ont fait les retraités la semaine dernière.
Il y a une série d'horreurs dans ce budget, dites-vous, et vous appelez donc à la grève et à la mobilisation le 2 décembre prochain. Vous dites parce que ils ne reculeront que si nous nous mobilisons. Et j'ai noté une phrase que vous m'avez dite dès la première phrase où je vous ai interrogé ce matin, Sophie Binet, sur la suspension de la réforme des retraites. Vous avez dit « ça a été arraché grâce à la mobilisation des salariés ». Bah, je suis pas du tout d'accord. Ça a été arraché grâce à la mobilisation du Parti Socialiste. Mais la mobilisation des salariés, il y en a eu. Et il y en a eu plus que jamais. Vous vous êtes énormément mobilisés. Il y a eu des manifestations pendant des mois. Pour autant, la réforme était passée. Si elle est suspendue là, c'est en vertu d'un accord politique.
Oui, mais en fait, les partis politiques sont là.
Vous pourriez au moins leur dire merci, quoi. Je veux dire, et ne pas dire que c'est grâce à la mobilisation de vos salariés, parce que c'est pas le cas.
C'est grâce à la mobilisation des salariés, je le maintiens. Tout le monde le sait, tout le monde le dit. Ils se sont pas réveillés un matin en se disant, on va se battre sur la réforme des retraites. C'est parce que des millions de personnes se sont mobilisées pendant des années, parce que nous leur avons
dit. C'est pas parce que le Parti Socialiste a un moment menacé de censurer? C'est pas plutôt pour ça?
Mais bien sûr. Mais pourquoi est-ce qu'ils l'ont fait? Parce qu'ils ont été élus pour abroger.
Aussi, ils sont convaincus, eux, qu'il faut abroger cette réforme.
Oui, bien sûr, mais parce qu'ils ont été élus pour abroger cette réforme. Et donc, pourquoi? Grâce au rapport de force des travailleurs et des travailleuses. C'est la première fois que 2 ans et demi après une mobilisation historique, on ne tourne pas la page. C'était la volonté d'Emmanuel Macron de tourner la page, de passer à autre chose. Grâce à notre mobilisation, on a réussi à garder le dossier retraite sur le dessus de la table, et il va falloir continuer à le faire jusqu'aux élections présidentielles.
Malgré tout, vous estimez que c'est grâce au Parti Socialiste?
C'est grâce, encore une fois, aux travailleuses et aux travailleurs.
Ça pourrait être les deux, au moins.
Bah, c'est évidemment parce que il y a des députés qui se battent, mais pas seulement le Parti Socialiste, qui se battent, contre cette réforme des retraites depuis 2 ans et demi, parce que c'est ce que demandent les travailleurs et les travailleuses.
Je vois pas ce que ça vous enlèverait de dire que, malgré tout, ce qui le permet aujourd'hui, c'est la mobilisation du Parti Socialiste.
Et de fait, là, il y a un décalage qui va rentrer en vigueur, mais les 64 ans restent dans la loi. Donc c'est quand même pas seulement un détail.
Et c'est un début pour vous uniquement, vous l'avez dit, une brèche. Sophie Binet, il y a d'autres dossiers qui vous inquiètent, et en particulier la question de la réforme de l'assurance chômage.
Oui, tout à fait. Ça fait des mois que tous les syndicats alertent. Il faut que le gouvernement enterre cette réforme qui serait d'une violence inacceptable, puisque ça serait plus de 3 milliards d'euros d'économies sur les privés d'emploi, dans un moment où les licenciements explosent, puisque les plans de licenciement se succèdent. Et donc, il faut que le gouvernement nous dise maintenant, de façon très claire et par écrit, qu'il renonce à réformer l'assurance chômage et qu'il enterre cette réforme.
Vous leur demandez de s'engager?
Oui, tout à fait, par écrit, parce que le précédent gouvernement a rédigé une lettre de cadrage nous invitant à négocier. Nous avons, les organisations syndicales, refusé de négocier sur cette base parce que ça serait beaucoup trop violent pour les privés d'emploi. Maintenant, il faut que le gouvernement nous dise précisément, clairement, par écrit, qu'ils enterrent la réforme.
La question d'une réforme des retraites avec une part de capitalisation. Vous avez sans doute vu les propositions de Gabriel Attal au nom de Renaissance hier, qui dit qu'il faut aller progressivement vers une capitalisation en parallèle de la réforme de des retraites par répartition, avec 1000 euros qui seraient donnés à la naissance pour chaque enfant, pour constituer un début de compte. Est-ce que vous estimez que c'est une piste possible de réflexion?
On a vu qu'il était en campagne électorale et qu'il fait feu de tout bois jusqu'à reprendre une proposition de Donald Trump. Pour nous, c'est non, c'est clair, puisque d'abord, c'est très coûteux pour les finances publiques. Et ensuite, c'est sans aucune garantie pour les salariés, puisque comme on le sait, le problème des retraites par capitalisation, le problème des fonds de pension, c'est qu'on n'est jamais certain de récupérer sa mise et qu'il suffit d'une violente crise financière pour que tout parte en fumée.
Et vous appelez donc à cette mobilisation, Sophie Binet, secrétaire générale de la CGT. Je le rappelle pour ceux qui nous auraient pris en route, vous appelez à la mobilisation et à la grève le 2 décembre. Une dernière question, tiens, est-ce que vous en avez parlé avec vos collègues, vos confrères? Est-ce que vous en avez parlé avec Marie-Lise Léon de la CFDT?
Oui, tout à fait. Nous avons proposé à l'ensemble des organisations syndicales d'appeler à la mobilisation. Certaines ont accepté et y seront d'ores et déjà, à savoir la FSU et Solidaire. D'autres, à ce stade, ne le souhaitent pas. Mais la porte est toujours ouverte à toutes celles et ceux qui souhaiteront se joindre à cette mobilisation, parce que nous avons besoin d'être le plus nombreux et nombreuses possible pour faire bouger
les lignes. Donc à ce stade, si je fais les comptes, il y a CGT, FSU, Solidaire, mais il n'y aura pas la CFDT qui est quand même le premier
le premier syndicat de France.
Tout à fait, mais j'espère que ça va changer d'ici au 2 décembre.
Vous espérez les convaincre. Merci Sophie Binet, secrétaire générale de la CGT, d'avoir accepté de répondre à mes questions au matin donc de ce vote à l'Assemblée nationale sur la suspension des retraites. Dans un instant, Nicolas Canteloup débarque avec son impertinence et son humour. Face à Canteloup, c'est tout de suite sur RMC.
RMC, Apolline Matin,
8h50. Face à Canteloup.
Tous les jours, l'info revisité par Nicolas Canteloup. Philippe Martinez, bonjour. Vous êtes l'ancien secrétaire général de la CGT. Vous avez, j'imagine, écouté Sophie Binet qui était mon invitée à l'instant.
Bah écoutez, mon regard, oui, Sophie Binet, je l'ai écoutée. Bah écoutez, y a rien à dire. Elle est mignonne. Hein, bah propre sur elle, voilà. Presque trop. Hein, excusez-moi, mais bah elle fait limite bourgeoise. Voilà,
non. Hein,
c'est moi. Bon, moi j'ai pas critiqué. Comptez pas sur moi pour critiquer ma succès,
non,
ma
succédrice,
ma enfin celle qui m'a piqué la place. Enfin voilà. Je l'ai croisée. Elle sent ni trop la merguez ni le cambouis. Hein, alors, mais bon, peut-être que c'est une bonne chose. Je critique pas, c'est un changement d'époque, voilà. Après l'intelligence artificielle, voilà, on est passé au syndicalisme artificiel. Hein, c'est chat CGT, voilà. Hein, avec peut-être des nouvelles marques de calculettes, hein, elle vous l'a dit. Hein. Moi, excusez-moi, mais moi je préférais le combat de rue, hein, la guerre de tranchées sociales. Hein, mais tout ça, c'est fini. Je vois bien que je suis le dernier poilu.
Philippe Martinez, poilu. Thibaut Texer est avec nous pour les titres de l'actualité. Bonjour Thibaut.
Eh oui, bonjour Apolline. Hier, 11 novembre, les Français étaient nombreux à suivre l'hommage aux soldats inconnus. Non, désolé Apolline, je ne parle pas de votre invité d'hier. Très attendu, l'interview très attendue de Jean-Hervé connais pas. Allez, c'est parti pour les titres. En ce lendemain, donc, du 11 novembre, c'est le vote du budget de la Sécurité sociale pour sauver et raviver la flamme du soldat le cornu. Justice, au lendemain de sa sortie de prison, Nicolas Sarkozy a publié un message de remerciement à tous ceux et celles qui l'ont soutenu. Mamie Nova, la laitière et les petits filous. Nicolas Sarkozy qui s'est donc offert un déjeuner avec Carla Bruni dans une brasserie parisienne. Tout de suite, la réaction de l'ex-président.
Oui, mais ça a été l'info de toute la semaine. Tout le monde a appris que je ne savais pas cuisiner. Mais Carla, c'est pire. Elle ne sait même pas ce que c'est qu'un œuf et passer une commande sur Uber Eats.
Merci, monsieur Sarkozy. Et merci, Thibaut Texer. Hier avaient lieu les cérémonies du 11 novembre. Bonjour, Éric Ciotti.
Oui. Bonjour, Mme Malherbe. Écoutez, c'est important, je le crois et je le dis ici solennellement, de rendre hommage à nos poilus. Qui ont combattu, il faut le rappeler, l'envahisseur. Même si c'est vrai qu'une invasion allemande, c'était pas ce qu'il y avait de pire. Mais parce que les Allemands, ils sont quand même, notons-le, blancs et chrétiens. Hein? Alors qu'aujourd'hui, ceux qui nous envahissent sont quand même un peu moins blancs et un peu moins chrétiens. C'est le constat que je fais, excusez-moi, mais les crânes rasés en uniforme ont été changés en barbus en djellaba. Voilà. C'est un constat, ce n'est pas un jugement. Hein? Donc je lance un appel aux poilus de France. Revenez, parce que les poilus, excusez-moi, mais ça restera toujours les plus compétents pour combattre des encore plus poilus.
Ah, c'est ça. Merci Eric Ciotti. Emmanuel Macron, vous avez célébré les commémorations. Comment avez-vous vécu cette journée, monsieur le président?
Oui. Bonjour à toutes et à tous. Quelle dignité, madame de Malherbe. Quelle leçon. Ce fut un honneur, oui, de rendre hommage aux poilus. Ça, c'était la France qui travaille, la France qui bosse. Tu leur disais, allez Émile, prends une boîte de haricots, un cubide rouge et retourne dans ta tranchée. Eh bien, les gars, ils y allaient. Ça pleurnichait pas sur l'âge de la retraite, excusez-moi, parce qu'à l'époque, l'important, c'était pas à quel âge on prenait sa retraite, c'était de réussir à prendre sa retraite vivant.
On a vu Sébastien Lecornu, ces commémorations.
Oui, ben écoutez, mon Sébastien Lecornu, c'est mon moine soldat inconnu. Voilà, c'est moi je l'aime bien. Il a beaucoup fait pour l'armée. Il a même intégré des poilus dans son gouvernement.
Ah oui.
Monique Barbu.
Ah oui, c'est vrai, Monique Barbu, c'est vrai. Merci Monsieur le Président. Nicolas Sarkozy a donc passé sa première journée à la maison depuis sa sortie de prison. Et on en parle avec son soutien de longue date. Tiens, Nadine Morano, quel plaisir de vous retrouver.
Madame de Malherbe. Moi, ce matin, je vous le dis, j'ai les boules.
Ah.
Oui, est-ce que vous avez vu hier les commémorations, monsieur Texer, pour la sortie de Nicolas Sarkozy? Hein? Non? Eh bien, c'est normal, parce qu'il n'y en a pas pas eu. Rien n'a été organisé. Mais c'est une honte. Vous croyez pas que Macron aurait pu avoir quand même la décence de venir saluer la libération d'un prisonnier politique? Eh ben non, non, il a préféré passer la journée en faire des tonnes pour un soldat totalement inconnu, que personne ne connaît, et en plus qui est mort. Non mais, une incinération qui a duré des plombes sous Arc de Triomphe parce que monsieur n'avait prévu qu'un petit bras zéro. Oh.
Merci Manine Morano. L'accord de libre-échange avec l'Amérique latine, le Mercosur, a été signé. François Ruffin, vous êtes contre cet accord qui, selon vous, va appauvrir nos ouvriers, notamment dans votre région.
Apolline Malherbe, on a aujourd'hui une agriculture exsangue qui a du mal à trouver des débouchés. Et on a Macron qui trouve rien de mieux que de signer cet accord avec le Mercosur qui va rendre encore plus pauvres nos agriculteurs, il faut le dire, et nos ouvriers agricoles qui se lèvent tous les matins pour faire un travail dans des conditions moyenâgeuses après avoir bu un mauvais café Marc Repère dans une pauvre tasse ébréchée. Oui, c'est ça le quotidien de la plupart des Français. Vivre dans un placard de 2 mètres carrés comme ils s'en vont aujourd'hui dans la capitale à Paris, en couple avec 9 enfants qui se partagent 2 ou 3 cafards grillés le soir pour se nourrir.
C'est vraiment ça la vie des ouvriers quand même, François
Mais Rousseau. Bien sûr, Apolline de Malherbe. Et avec le Mercosur, c'est encore pire. Les patrons, c'est eux qui vont gagner. L'ouvrier, tous les jours, on le voit sur BFM, sur LC, sur... non, c'est pas le droit de le dire. Sûr, ils le voient que les grands patrons, ils ont multiplié leur fortune par 1400 milliards de 70% de truire 6 mois. Que Bernard Arnault, il se gave d'homard, des hors-mars farcis au foie gras, flambé au champagne sur son yacht au large des Seychelles, avec autour de lui des dauphins qui font des pirouettes et des saltos pour le saluer. C'est ça la réalité. Alors que pendant ce temps-là, le Français moyen, lui, le seul animal qu'il a autour de lui, Madame de Malherbe, c'est son chien mourant. Et son seul espoir, c'est se manger le cadavre de son chien Noël pour se nourrir en guise de bouche. C'est ça la réalité. C'est pour ça que je dis ça suffit la série d'horreur. Le budget, le Mercosur et partout ailleurs. C'est ça. Ça suffit.
Et merci Nicolas, François Cantou, que l'on retrouve dès demain à 8h50 sur RMC, à tout moment en podcast. Dans un instant, les GG, quel est le programme, Alain ?
Eh bien, dans les grandes gueules, nous parlerons de ce qui va se passer aujourd'hui à l'Assemblée nationale. Alors, est-ce que c'est jour de fête ou jour de capitulation ? La suspension de la réforme des retraites, vous venez en parler avec nous au 32-16.